Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. On parle encore de travail au LAG, samedi 24 mars de 10h à 12h30, avec le groupe Féminisme et Décroissance des OC62, qui a choisi d'interroger cette année la question du travail. Il s'associe pour cela au LAG, le lieu autogéré de Liévin. Après avoir exploré le rapport entre capitalisme et féminisme, les décroissantes et décroissants se penchent sur la vie des femmes qui, au cours du XXe siècle, ont investi le monde du travail salarié. Émancipation, indépendance économique ou bien double journée, exploitation, inégalité. Quel constat quelques décennies plus tard? Est-ce vraiment la vie dont on rêve quand on est féministe et décroissant? C'est donc le samedi 24 mars de 10h à 12h30, travail, féminisme et décroissance, au LAG 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Le samedi 24 mars, à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion, à 14h, c'est de culture et citoyenneté qu'il s'agit, une rencontre-débat dans le cadre du festival Les Utopistes Debout. Sur cet après-midi, de nombreuses compagnies artistiques, programmateurs, intermittents du spectacle, élus, publics, sont invités à échanger sur les fondamentaux et les dangers qui menacent le champ culturel. La journée se terminera par le spectacle de Thomas Suel à 19h. L'entrée est gratuite. C'est donc samedi 24 mars, après-midi, à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion. Lundi 26 mars à 20h, ciné-débat au Ciné Movida à Arras à partir du film Atelier de conversation. Dans l'une des plus grandes bibliothèques de la ville de Paris, des gens venus des quatre coins du monde se débattent avec une nouvelle langue. C'est donc le lundi 26 mars à 20h au Ciné Movida à Arras. Le jeudi 29 mars à 19h, c'est une projection rencontre en partenariat avec l'association Schwed sur la thématique « Parole d'héritier ». Après un travail de recherche de 3 ans sur l'héritage culturel dans le bassin minier, et plus particulièrement à Libercourt, L'association Schweid et le sociologue Jesse Cormon nous livrent la mémoire collectée auprès des héritiers de cette histoire minière. C'est donc le jeudi 29 mars à 19h, à la grande chaufferie du 99 bis à Oigny, chemin du Tordoir. Pour tout renseignement et pour réserver, 03 21 08 08 00. Vendredi 30 mars à 20h30 au Majestic à Carvin. Moment d'angoisse chez les riches. Mêlant théâtre et musique en direct. Le spectacle interroge notre époque à travers des textes visionnaires et engagés de l'auteur allemand Kurt Tucholsky. Dans l'esprit des cabarets allemands, de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui, la même question reste posée. Comment vivons-nous ensemble ? C'est donc le vendredi 30 mars à 20h30 au Majestic à Carvin. C'est réservé pour les personnes à partir de 15 ans. Pour tout renseignement et pour toute réservation, hein, parce que la réservation est conseillée, c'est au 03 21 74 52 42. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une rubrique de notre site micro-rebelle.fr. Cette rubrique s'intitule Zik Rebelle et vous la trouverez sur le site avec toutes les références des morceaux proposés. Il s'agit d'une compilation de musique libre et jouissive avec des airs qui partent aux quatre vents. Cette semaine, c'est déjà la cinquième compilation proposée par Zik Rebelle. Je signale que toutes les émissions Zik Rebelle sont spécialement concoctées et avec passion par l'ami Luc. Sans attendre, voici un extrait de Zik Rebelle numéro 5. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur le déploiement des compteurs Linky dans le bassin minier. Mardi dernier, une deuxième réunion publique s'est tenue à Lens, cette fois salle Jean Noin. La salle Jean Nohain est une grande salle contenant 600 places assises. Eh bien, ces 600 chaises étaient toutes occupées et des dizaines d'autres personnes étaient debout. Enedis, la filiale d'EDF qui organise l'installation des compteurs Linky, avait à un moment annoncé sa présence à cette réunion. Mais il faut croire que l'imposante mobilisation contre ces fameux compteurs dans le bassin minier ne rassure pas le mastodonte Enedis qui finalement ne s'est pas déplacé. Cette belle et dynamique réunion publique a donc permis aux centaines de Lensoises et Lensois d'écouter les interventions du maire de Lens, de l'UFC Que Choisir, d'un universitaire scientifique et du collectif anti-Linky du bassin minier. Le maire de Lens, pour l'instant tout au moins, ne souhaite pas se prononcer sur cette question du déploiement du Linky. Il n'est pas sûr que cette position soit bien comprise de la part des habitantes et des habitants. Le collectif anti-Linky du bassin minier a pu développer longuement ses analyses et répondre aux nombreuses questions de l'assistance à propos des compteurs Linky. Quel est leur impact sur la santé ? Quel est leur impact sur la sécurité de la maison ? Y a-t-il des risques d'incendie ? Quel est leur impact sur les futures factures d'électricité ? Est-il vrai que des gens ont vu le montant de leurs factures bondir ? Quel est leur impact sur l'environnement ? Que va-t-on faire des informations sur la famille que le compteur permet de recueillir ? Comment faire pour refuser le Linky quand on n'en veut pas ? Etc. Signalons également que les participants pouvaient se procurer des lettres de refus du compteur, lettres à adresser à Enedis et à la mairie, ainsi que des autocollants, ou encore des livrets ou de la documentation, ainsi que signer des pétitions. À l'issue de cette assemblée, la mobilisation contre tous les compteurs intelligents, Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz, et enfin les compteurs concernant l'eau potable, la mobilisation donc se poursuit et d'ores et déjà de nouvelles assemblées sont prévues. À Los Angoël, au foyer Omer Caron, mardi 27 mars. À Liévin, salle de l'abbé Jean-Marie Hubert, rue Chanzy, mercredi 11 avril. À Élodie-Loëtte, où le lieu et la date seront communiqués prochainement. Signalons également une mobilisation en préparation à Évin-Malmaison. À l'occasion de toutes ces réunions publiques, le collectif anti-Linky du bassin minier s'est considérablement renforcé, ce qui lui permet de mettre en œuvre de nombreuses initiatives de mobilisation contre ces compteurs. Les membres du collectif bassin minier adhèrent individuellement à l'association départementale Linky 62. N'hésitez pas à taper Linky 62 dans votre moteur de recherche sur Internet. Et pour contacter le collectif du bassin minier, il vous suffit d'envoyer un courriel à l'adresse de contact suivante linky@bassinminier62.org. Bassinminier 62 tout collé. Le collectif anti-Linky du bassin minier se mobilise actuellement autour de 5 axes. Premièrement, Enedis doit cesser ses installations dans le bassin minier. Pour être plus précis, Enedis ne peut installer un Linky que si la famille l'a expressément notifié. Tant qu'une famille n'indique pas qu'elle souhaite le Linky, alors Enedis doit s'abstenir de toute démarche. Deuxièmement, les élus ne peuvent plus rester neutres devant la question des compteurs intelligents. Il s'agit d'une question qui concerne la santé, avec les personnes électrosensibles qui vivent très mal depuis qu'on leur a installé, contre leur volonté, un Linky. Une question qui concerne aussi l'environnement, qui concerne l'utilisation marchande des données personnelles collectées par le compteur, qui concerne l'emploi, qui concerne le respect des habitantes et des habitants, qui concerne la vie démocratique en France, qui concerne le type de société dans laquelle nous souhaitons vivre, etc. etc. Ainsi, il n'est pas imaginable que les élus de nos communes, de nos agglomérations restent neutres. Rappelons que les compteurs électriques sont propriétés des collectivités locales. Et rappelons aussi que dans tout combat du pot de fer contre le pot de terre, se dire neutre, c'est permettre au pot de fer de l'emporter. Troisième axe sur lequel le collectif se mobilise, Enedis doit cesser ses méthodes d'intimidation et de harcèlement, notamment en direction des personnes les plus vulnérables, pour imposer la pose de ses compteurs. Quatrième axe, toute personne à laquelle on a installé un Linky contre sa volonté ou par ignorance et qui ne souhaite plus ce compteur doit pouvoir revenir en arrière et se faire réinstaller un ancien compteur. Et enfin, cinquième axe, tous les points ci-dessus concernant le Linky s'appliquent au compteur intelligent pour le gaz, le fameux compteur Gaspard, et au compteur intelligent qui concerne l'eau potable. Si vous souhaitez vous engager autour de ces différents axes, n'hésitez pas à contacter le collectif anti-Linky du bassin minier. Je vous rappelle leur adresse contact, c'est linky@bassinminier62.org. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre. Eh bien, je vais de nouveau vous proposer une Zik Rebelle. Je vous en parlais tout à l'heure. Zik Rebelle, c'est une compilation de musique libre et jouissive, avec des airs qui partent aux quatre vents et que vous pouvez retrouver sur notre site micro-rebelle.fr, à la rubrique Zik Rebelle, bien sûr, avec toutes les références des morceaux proposés. Cette semaine, c'est déjà la cinquième compilation proposée par Zik Rebelle. Je signale que toutes les émissions Zik Rebelle sont spécialement concoctées et avec passion par l'ami Luc. Sans attendre, voici donc un extrait de Zik Rebelle numéro 5. 2 a.m. I wrote this shit at 2 a.m. I put this all on mama just like 2 a.m.s. Friends talk behind my back, but fuck I do to them. Had to take this shit back to where it all began. Off of Granddad, a bedroom up there on Lincoln Ave. Back when I was still penning that I missed my dad. Thinking if I died, I'd put my brain up in the Louvre. Scientists baffled, how a white boy that smooth. Suede shoes on a Persian carpet. The shooter and a target. Did everything wholehearted. Then like a farmer's market, I put it all on the stand. Back when I shared a classroom with Chantel and Lorraine. Back when I shared a locker with Kareem. Then life was so serene. Then Dante's mom adopted me, an orphan with no apology. These February moments. March memories, happy-go-lucky, but with suicidal tendencies. There's a girl from my town I wanna date, I just need to address. I can't bring you to my world, cause my life is a mess. Plus I'm grinding night and day, trying to be the best. Just know I got the key for the tattoo that's on your chest, Lord. Oh, eyes one at 24. I had to risk it all and then a little more. Early 20s, life done put me in a figure four. Who would've figured I'd become a father without fucking raw? Where were you when I had the clips with the black bumper? Or when I sold my Stang and had no whip the whole summer? Or how about when the bank came and tried to take my house? I'm not the same Brian, bitch, watch your mouth. Don't address me as a rapper, but a preacher with beats. A scholar with a scroll, carving joy in the streets. They bump me in the shower and when the family eats. Same ones weeping at my wake, the ones who calling us freaks. Now we live in an era where your phones become a organ. When I die, have Billy Joel up on the organ. Yeah, the coldest white boy you know. Mom used to say that I was too messy, but now I'm known for spilling my soul. It's crazy. At the intersection of forgotten and famous, the nicest and nameless. Without Carter, I'm brainless. Yeah, few times I contemplated killing myself. Deep pains in my stomach, I would fear for my health. But then I think back to times that we go out to lunch at China King. Back when I was too shy to try this rhyming thing. I used to play with Pokemon, but now I get my flowing on. Still going strong out here palming trees like it's Boca Raton on my TV. Petey Pablo trying to live like that. Chingy rocking chains and hoes when he raps. Daydreaming about stages, ducking minimum wages to the newest crazes. Me, R-Y-D-N-E. I used to be Peter Parker, then I turned into Venom. All black lungs, yeah, it's matching my denim. Yo, Aiden, remember that time we went from Burford back to Plaza? Telling stories, kicking rocks, joking, smoking, ha-ha. We could've took dust and I wasn't flossing, had a little cheddar. For some reason, an hour walk just seemed a little better. Or what about we went to that spot on DeMott? Me, you, Ian, and Fox, rolling up, ducking cops. Mom's bugging that on speaker, lecturing me about pot. Reminiscing about those missions, damn, I missed that a lot. I lost a lot of friends, spending time with pads and pens. Sitting in my pad, working toward these bigger pads and ends. But if you struggle how I struggle, you would understand. This what happens when a child star becomes a man. This what happens when you find out what's important. Now my heart won't close, damn, I think it need a force quit. Somehow through all that bullshit, I didn't lose my mind, luckily. Shit, even older dudes is looking up to me. I had to realize every storm runs out of rain. A lot of shit brewing, same gun but different aim. See, I was raised in Baldwin, but nah, I won't die here.
I got multi-million dollar ideas and visions of everyone saying you did it, son. I don't watch too many shows because I live in one. On my 26th season, still breathing, still eating, still party with my demons, still seeking, still raw paper reeking. Got the floorboards creaking, still fiending, still scheming, still trying to break even. Just a regular kid who had a dream. I want double XL in Time Magazine. So sure of myself, I got the sand all over me. Soon as you hear that, you know it's me, Eastside. Fuck is up. Shout my boy Nick in Ohio too, I see you boy. That's it.
C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Tous les reportages de Micro-Rebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Micro-Rebelle hebdo sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Pour cet extrait, nous vous proposons de poursuivre notre cycle radiophonique consacré à l'agriculture paysanne. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce cycle en intégralité sur micro-rebelle.fr à la rubrique « Reportage ». Voici donc la deuxième partie de ce cycle. On y retrouve Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui s'est engagé toute sa vie dans la défense et la promotion de l'agriculture paysanne et a contribué à la mise en œuvre du réseau régional des organisations qui s'inscrivent dans cette sensibilité. La Confédération paysanne, Avenir 59-62, le CEDAPA, Terre de Liens, le réseau des AMAP, etc. Cet échange exceptionnel est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'agriculture paysanne en région, ainsi que sur les enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Par ailleurs, pour éclairer la réalité de l'agriculture paysanne aujourd'hui, ces trois émissions donnent également la parole à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des petites fermes, à des paysans nouvellement installés, ainsi qu'à des paysans qui viennent tout juste de partir en retraite. Dans ce deuxième volet, ce sont Dimitri, Caroline et Benoît que nous écouterons. En voici donc quelques extraits.
Dimitri Tabary, je suis exploitant agricole sur le Valenciennois, à Thian, à la ferme du Bayon. Donc on est une petite exploitation qui a été recréée en 2013 sur 4,5 hectares. Et nous élevons essentiellement des porcs sur paille et des volailles que nous commercialisons uniquement en vente directe à la ferme tous les samedis matin. Et nous écoulons la totalité de notre production par ce vecteur, par cette façon de vendre à la ferme.
Et, les porcs que tu commercialises sont transformés
Donc les porcs je les emmène le lundi matin à l'abattoir de Valenciennes, qui reste un abattoir de proximité. Je mets 10 minutes pour aller les emmener. Et ensuite, ils sont découpés par un prestataire qui est sur Cambrai. Donc même chose, j'essaie de rester au plus proche en fait. Ce prestataire s'appelle Viande d'Aine, tout simplement. Donc c'est un boucher historique de Cambrai qui a installé son fils dans une activité de découpe. Et je récupère généralement la viande le jeudi. Et je transforme, donc toute la partie charcuterie est faite sur l'exploitation agricole par contre. Donc saucisses, pâtés, rillettes, tête pressée, etc., etc., en fonction des saisons aussi.
Alors comment ça se passe cette transformation? Il faut un atelier, il y a des labellisations, il y a des contrôles sanitaires
Alors bien entendu, il y a une déclaration qui est faite au niveau de la DDPP. Cette déclaration nous permet de transformer sur la ferme, bien entendu, dans un atelier sanitaire qui n'est pas agréé, puisqu'on a une dispense d'agrément, puisqu'on transforme nos propres bêtes en fait, et qu'on ne revend pas à des intermédiaires. Donc on a une dérogation en fait à l'agrément CE, tout simplement, tant qu'on transforme nos bêtes.
Alors peut-être un aspect matériel, on a eu l'occasion d'entendre plusieurs personnes qui étaient installées, et revient d'une manière assez récurrente la question de la dureté du travail d'un côté, et de l'autre côté la question du revenu. Comment ça se passe pour toi ?
Alors nous, on a un cas un petit peu particulier puisqu'on est tous les deux, mon épouse et moi sommes tous les deux double actives. Donc notre activité agricole nous permet de faire face à nos charges de l'exploitation agricole.
Donc tu équilibres quoi ?
On équilibre la partie investissement, mais on est incapable de tirer un revenu actuellement de notre exploitation agricole.
Alors, est-ce que ça, ce sera possible ? Alors, et à quel prix ? En développant ?
Voilà, la seule façon de faire, c'est de développer. Hein. Cette année-là, à partir du mois de septembre, on tente une expérience. Mon épouse a pris une année de disponibilité, puisqu'elle est fonctionnaire. Et on va essayer d'ouvrir non plus une matinée par semaine, mais trois demi-journées par semaine pour essayer de doubler l'activité de vente. Et ce qui nous permettrait à ce moment-là, normalement, de dégager un tout petit SMIG, on va dire. Alors après, c'est un SMIG pour quelqu'un qui travaille, qui est salarié. Hein. Si on rapporte ce travail-là au nombre d'heures qu'on passe sur l'exploitation agricole, bien entendu, on n'est pas du tout au taux horaire du SMIG.
Alors, je vais revenir sur cette installation, le fait que tu es double actif, autrement dit que tu n'es pas issu du monde agricole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as dû à un moment donné dire « je vais me former ». Comment ça s'est passé déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, premièrement ? Puis deuxièmement, comment ça s'est passé d'un point de vue acquisition de connaissances, de savoir, de savoir-faire ?
Alors moi, j'ai eu une double envie. Hein. Je suis issu, j'ai un grand-père qui était agriculteur. Hein. La génération de mes parents sont tous partis travailler soit à l'usine, soit comme fonctionnaire, très clairement. Donc la ferme est partie à l'agrandissement à ce temps-là. Hein. Et ça m'a toujours fait envie de revenir à la terre, à l'élevage en particulier. Et j'ai un fils qui, depuis, qui sait parler, veut être agriculteur. Donc clairement, on s'est redonné les moyens pour espérer pouvoir l'installer dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué de se réinstaller hors cadre, comme on dit, hein, dans le jargon administratif, puisque il faut se refaire un réseau, il faut retrouver une ferme à reprendre. Là, nous, c'est une ferme qui a été, entre guillemets, à l'abandon pendant pratiquement 4 ans, sur laquelle il y avait 75 hectares, mais nous, on aurait eu la possibilité de racheter uniquement ce qui n'intéressait personne, hein, globalement, hein, c'est-à-dire les pâtures qui étaient autour de l'exploitation agricole, au centre du village. Donc tout ça, ça engendre aussi des contraintes après techniques, puisque on va vite se retrouver bloqué en termes d'agrandissement, en termes de mise aux normes, etc.
Et donc ça peut poser souci justement pour le développement qu'on évoquait tout à l'heure ?
Tout à fait, ouais. Là, clairement, pourtant on est installé depuis 2013, donc ça fait 4 ans, et on est déjà en train de réfléchir à une course à l'agrandissement, mais à trouver des terres, certainement à l'extérieur du village, pour pouvoir développer notre atelier porc, par exemple.
Très bien. Alors, ça nous donne peut-être une photo de l'activité. Maintenant, je voudrais qu'on, peut-être, si ça t'est possible, qu'on prenne le point de vue de ceux qui achètent. Qui est-ce qui vient, qui est-ce qui bénéficie des productions de la ferme ?
On a été très étonnés au départ quand on a démarré les premières ventes. Nous, on a démarré au tout début uniquement en colis. Hein, donc, nos clients, on peut les appeler comme ça, hein, étaient essentiellement des familles avec un peu de monde dans la famille, donc des grosses familles, entre guillemets, qui achetaient du colis. Et on a développé en parallèle, parce qu'il y avait une demande, une activité de vente au détail. Et là, en fait, on a tout un panel qui va de jeunes qui ont 20 ans jusqu'à des retraités qui viennent chercher leur viande toutes les semaines. Et donc, c'est assez intéressant. Et on a vraiment une pyramide. On n'a pas une pyramide, justement. On a un ensemble de personnes qui couvrent toutes les générations. Et il y a même des parents avec les enfants. Et les enfants sont vecteurs aussi dans l'acte d'achat. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une vraie éducation qui peut se refaire par ce biais-là. Parce que les gens sont en face à face avec nous, éleveurs. On peut leur expliquer comment on élève, pourquoi on fait ça. Pourquoi on n'a pas des gros volumes ? Pourquoi toutes les semaines, on ne peut pas avoir un filet mignon parce qu'il n'y en a que deux sur un porc et qu'on ne vend qu'un porc par semaine ? Et tout ça, je pense que c'est une vraie éducation à refaire vis-à-vis des jeunes, notamment.
Et apparemment, ça marche. Autrement dit, on a des consommateurs, enfin des clients, comme tu dis, qui ne vont pas en grande surface.
Ah, bien sûr, du moins, les clients que l'on a, alors on doit avoir un fichier, entre guillemets, on a plus de 500 clients différents qui viennent à la ferme tout au long de l'année et qui sont des personnes qui nous visitent au minimum 2-3 fois par mois, du moins. Donc c'est vraiment une nouvelle habitude de consommation. Et ils font le détour exprès pour venir acheter leur porc et leur volaille à la ferme du Bagnon. Ils ne vont pas ailleurs.
Et ce qui les motive, c'est... Bon, j'imagine que c'est que tu n'es pas moins cher que la grande distribution, tu es peut-être même un peu plus cher, enfin, je le présume. Donc ce qui les motive, c'est la qualité, c'est la relation, c'est une conception de la façon de se nourrir.
Je pense que ce qui les motive le plus, c'est la transparence déjà. Moi, je suis capable, notamment on fait des journées portes ouvertes, même à n'importe quel moment, d'aller montrer mes bêtes, de leur expliquer comment je les alimente, comment je les transforme. Qu'est-ce que c'est que le... Pourquoi moi, éleveur, j'emmène mes bêtes moi-même à l'abattoir aussi? Parce que ça, c'est important aussi. Derrière, il n'y a pas de stress. Ça fait partie aussi de ce qu'ils recherchent en venant dans une vente directe comme ça. Ensuite, en termes de prix, nous, on a pris comme stratégie de dire, voilà, nous, on n'a pas d'intermédiaire, donc on peut se permettre de vendre globalement au prix de la grande surface, alors sauf quand ils font des promotions à 1 euro le kilo le porc. Hein. Mais globalement, on est sur des prix qui se valent avec la grande surface. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc, je veux dire que la marge qui est faite entre les deux, elle est partagée entre nous et l'acheteur. Tout simplement.
Alors, peut-être une dernière question sur l'activité en tant que telle. La solidarité entre paysans, la solidarité dans le monde agricole, tu la connais, c'est quoi? C'est des réseaux? Comment ça se passe?
Alors, au niveau de l'agriculture paysanne, comme je l'appelle, on a de vrais réseaux qui nous permettent de nous entraider, de nous donner des pistes, de nous motiver aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est hors cadre, quand on est tout petit, vis-à-vis de nos voisins agriculteurs du modèle industriel, on va dire, c'est clair que on n'a pas beaucoup d'aide à aller chercher ces jeux. Alors après, il y a des exceptions, comme partout. Mais on a un vrai réseau. Moi, je sais que, par exemple, c'est l'association Avenir qui nous a permis de franchir le pas de l'installation, puisque les institutions classiques, à savoir la chambre, à savoir le syndicat, me conseillait pas de m'installer, me décourageait même très fortement de m'installer. Et en fait, je suis tombé sur une association qui m'a permis en fait de trouver des personnes qui, comme moi, hors cadre, s'étaient installées et réussissaient à vivre correctement, du moins avec... Alors quand on dit correctement, c'est pas toujours correctement au niveau financier, mais c'est dans la philosophie de s'installer sur des petites exploitations. Et je pense que c'est vraiment important. Derrière, je me suis intégré aussi grâce à eux dans la Confédération paysanne, qui revendique plutôt, on va dire, à l'installation de plusieurs agriculteurs sur des petites exploitations agricoles plutôt que de favoriser l'agrandissement.
Alors donc, une installation finalement assez récente, en même temps beaucoup de projets de se développer, tu l'as dit. Aujourd'hui, quelle est ta vision du monde agricole, du monde paysan? Tu évoquais des difficultés, tu évoquais beaucoup de travail, tu évoquais des revenus qui... demande à grandir. Tu es optimiste, tu es pessimiste?
Alors moi, je suis très optimiste là-dessus parce que je pense que, on le voit bien actuellement avec la crise agricole qu'il y a, quand je côtoie les paysans qui sont installés autour de moi, tous continuent en fait à avoir une vie qui correspond à leurs attentes. Je les entends pas se plaindre plus qu'un autre temps. Économiquement, ce sont des petites structures qui assument leurs charges, contrairement à des grosses structures qui, on le voit bien actuellement, peut-être encore cette année, si on a une deuxième crise dans les céréales, si la crise dans la production de lait continue, ces grosses structures-là ont quand même beaucoup de difficultés à assumer leurs charges financières. Si l'État, si l'Europe ne vient pas à leur secours, à mon avis, c'est des modèles qui économiquement auront du mal à sortir de cette crise-là. Alors que toutes les petites fermes qu'on a autour de nous passent très bien cette crise-là, puisque nos clients, ce sont, des gens de proximité. On ne vend pas des grands groupes, non.
Alors peut-être juste pour conclure cet échange radiophonique, on est aussi avec Caroline, qui est sur l'exploitation. Alors peut-être, Dimitri, moi, je réagis un petit peu, peut-être personnellement, tu vas me contredire ou pas, le soutien du conjoint sur un projet comme ça, c'est important quand même.
Ouais, c'est indispensable. Je veux dire que c'est une aventure où on emmène, malgré nous, toute la famille. Je veux dire, bon, nous, on travaille à deux sur l'exploitation. Les enfants, il y a le fils qui donne aussi un coup de main quand il est là. Bon, la fille, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bah, voilà, c'est pas forcément sa vision d'avenir. Mais bien entendu, on est obligé de vivre à 100% toute la famille sur la ferme parce que, bah, c'est tous les jours. C'est une dynamique familiale qu'il faut forcément avoir. Et puis, on passe tellement de temps, je veux dire, sur l'exploitation agricole qu'il faut que la famille accepte, forcément.
Alors, justement, Caroline. Donc, Dimitri l'a précisé, tu es fonctionnaire. L'année prochaine, tu auras une disponibilité. Tu seras à plein temps sur la ferme. Aujourd'hui, déjà, quelle est ton activité et puis, comment tu vois cette année prochaine?
Alors, moi, mon activité, j'interviens surtout pour tout ce qui est réservation et contact, information, les gens qui nous appellent ou par... par internet pour des informations. J'interviens aussi donc le samedi matin pour la vente, pour la préparation et puis les à côté du rangement, du nettoyage, on va dire. Et moi, après, mon avenir sur la ferme à partir de la rentrée, donc c'est vrai que ça sera de m'y investir beaucoup plus pour... alléger aussi une partie de ce que Dimitri fait pour...
Y compris en ayant du contact avec les bêtes
avec, et... Oui, ça passera forcément aussi par là. Bon, ça déjà, je le fais, ça m'arrive aussi de nourrir les bêtes, de m'occuper des bêtes, même si je le fais beaucoup moins souvent parce que mes horaires sont plus contraignants, mais...
Alors quand Dimitri dit, bon, un projet comme ça, ça ne peut pas marcher si ce n'est pas un projet qui est porté par la famille, comment tu réagis?
Moi, non, je pense que ça peut pas marcher si la famille derrière ne suit pas, parce que c'est impossible. Je vois quand je rentre du travail, on s'était posé la question, justement, avant que je prenne la décision d'arrêter, est-ce que je me retirais du projet? Et puis, parce que c'est vrai qu'à côté, il y a encore les enfants, il y a la vie de la maison, et que je me remettais vraiment que sur mon travail. Ou est-ce que j'arrêtais mon travail pour me mettre sur la ferme? Et bah, c'est pour l'équilibre de la famille, c'est ce qui est le mieux, parce que c'est impossible de rentrer le soir, traverser la ferme et se mettre des œillères et dire le travail il est là, c'est toute la vie de la maison qui est là, quoi.
Et toi, alors, optimiste pour...
Oui, je pense, oui. Quand on voit les relations avec... les gens qui viennent, avec les clients le samedi matin, avec les gens qui viennent visiter aussi quand on fait des portes ouvertes, quand on voit la réaction de tous les enfants qui viennent avec leurs parents, voir les bêtes qui viennent, même les enfants qui nous disent qu'ils aiment nos produits, le saucisson, les saucisses, qui demandent à leur papa ou leur maman de l'acheter. Oui, franchement, je suis optimiste.
Et puis finalement, on est complètement dans l'humain, puis c'est une activité qui a beaucoup,
ouais,
beaucoup de sens, quoi.
Oui, oui, oui.
Eh bien, merci Caroline, merci Dimitri, et puis bonne continuation.
Merci beaucoup.
Après ce premier témoignage, nous retrouvons Jean-Luc Malpeau.
Oui, alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, alors bien sûr, tout ce que je dis était quand même un petit peu schématique, hein, on ne peut pas entrer dans tous les détails, et les choses sont toujours plus nuancées que ce qu'on peut dire.
Hein. Bien sûr.
Mais il y a quand même deux grands pôles vers lesquels s'orientent les agriculteurs, des pôles contradictoires. Il y a un pôle qui est un pôle très intégré à l'industrie. On produit de la matière première pour l'industrie, au moindre coût. L'objectif est de fournir de la matière première à l'agroalimentaire essentiellement, un peu, on en parle moins, mais pour fournir de l'énergie, et puis pour exporter. Et là, il faut produire au moindre coût sur des grandes structures avec très peu de travail, en fait. Le meilleur moyen de diminuer les coûts, c'est de diminuer le travail. Enfin, c'est ce qu'on dit, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait.
C'est, en tout cas, le système, c'est ce qu'il vise, en tout cas.
C'est ce qu'il dit. et donc, là, c'est une agriculture qui évolue vers une concentration forte des fermes et une intégration forte aux filières. D'ailleurs, quand on entend un certain nombre de responsables agricoles, que ce soit un responsable de coopérative, syndicat, la FNSEA, qui est quand même dans cette direction-là, très majoritairement, depuis une bonne dizaine d'années, il parle très peu de la défense d'un modèle agricole, de la défense même du revenu agricole, il parle de la défense des filières. Alors, la filière, ça regroupe l'aval, donc ceux qui fournissent les matières premières à l'agriculture, donc les mieux placés, les plus connus, c'est les industries chimiques.
C'est les chimistes, oui.
Monsanto et tous ses copains, là. Et puis aussi ceux à qui on vend, c'est-à-dire l'agroalimentaire essentiellement l'agroalimentaire. Donc cette tendance-là, ce pôle-là de l'agriculture considère l'ensemble. On défend des filières, qui sont des filières capitalistes carrément, quoi. Donc, et donc il faut que l'agriculture s'adapte à ça, c'est-à-dire la concentration des moyens de production, plus de technologie. Alors maintenant, on commence à parler de drones. L'autre jour, j'entendais dans une émission à la télé, là, sur Arte, un intellectuel, je crois, qui disait que maintenant, l'agriculture, grâce aux drones, va pouvoir faire de la meilleure qualité et mieux respecter l'environnement. Je ne sais pas comment, mais bon. Donc on voit bien que cette agriculture-là demande, puisqu'elle se base essentiellement sur de la technologie et donc des capitaux, est une agriculture qui va être de plus en plus financiarisée, c'est-à-dire dépendre de la finance. Puisqu'il faut emprunter, il faut financer tout ça. Et donc les comptes qu'elle aura à rendre, ce sera à la finance. C'est quand même le pôle majoritaire, même si tout le monde, même s'il n'y a pas tant d'agriculteurs que ça, qui consciemment veulent aller vers ça, mais c'est quand même la tendance majoritaire, parce que tout le système pousse dans ce sens-là. L'autre pôle, c'est ceux justement qui sont issus en partie des courants dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, plus d'autonomie, plus de paysans, et aussi des pôles bio, par exemple, qui eux existent depuis longtemps, mais qui ont été vraiment reconnus à partir des années 90. Encore que les bio, il y a un débat, hein, mais en général, ils vont plutôt dans ce sens-là, et de ceux qui pensent que l'agriculture doit être intégrée au territoire. Donc, qu'ils se considèrent moins comme des chefs d'entreprise, mais plus comme des acteurs d'un territoire.
Ce qui finalement était la vie paysanne de toujours.
Ouais. Oui. Alors, ce qu'on nous a appris, nous, quand même, parce que je pense que c'est important, cette notion de chef d'entreprise, c'est que quand on gère sa ferme comme une entreprise, on gère sa ferme pour optimiser les résultats financiers dans le contour de la ferme. Ce qui se passe ailleurs, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Si on gêne les voisins, ben c'est pas notre problème. L'essentiel, c'est que notre ferme tourne bien. Si on pollue l'eau, ben c'est pas notre problème. C'est ça. Alors que quand on a une agriculture qui est intégrée sur un territoire, on prend en compte tous ces aspects-là. Et ça change complètement la façon de penser l'activité. Ça ne la simplifie pas, hein, mais ça change la façon de penser. Et dans ce cas-là, si on intègre au territoire, les comptes à rendre ne sont plus aux financiers, mais c'est des comptes à rendre à la population du territoire. C'est pas les mêmes comptes. On ne rend pas les mêmes comptes dans ce cas-là. Donc voilà. Donc pour moi, ma vision d'ensemble, c'est ces deux pôles-là. Ce qui se passe quand même, et qui s'exprime par la crise actuelle du lait, par exemple, c'est que beaucoup de gens qui ont suivi la direction de l'efficacité, de la productivité, et donc de la diminution des coûts, qui ont investi beaucoup, avec la déréglementation du marché du lait, bah, ils n'arrivent plus à rembourser. Et donc, tout en ayant fait un choix dans une direction, ils se rendent compte que c'est une impasse pour eux, une impasse tragique. Enfin, forcément, quand on pense au nombre de gens qui se sont suicidés depuis 5 ans, c'est catastrophique, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui avaient bien suivi le modèle. Sauf que quand ils se sont lancés dans le modèle, le lait était encore protégé, le prix du lait était garanti avec les quotas, plus ou moins garanti avec les quotas. Puis tout d'un coup, pour moderniser la politique européenne, on a supprimé les quotas, et ce système-là ne marche plus. Donc, le système, à mon avis, qui va dans le sens du maximum de productivité, d'intégration aux filières, etc., ne permet pas... met les gens complètement en insécurité. Alors, ça peut très bien marcher le jour où les cours vont remonter, etc., et là, on peut gagner beaucoup d'argent, mais un jour ou l'autre, on est éliminé, quoi. Alors que le système plus territorialisé, où on investit moins, où on est plus une grande diversité, donne une plus grande on va dire, une plus grande résilience, pour employer des mots modernes. Ça ne veut pas dire qu'on gagne forcément beaucoup d'argent, mais on a moins de chances de se faire éliminer. Puis plus de satisfaction humaine aussi, hein. Enfin en général.
Je vous propose d'écouter le témoignage de Benoît. En début d'émission, Dimitri et Caroline ont évoqué leur installation hors cadre familial, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne sont issus du monde agricole. Dans le témoignage qui suit, Benoît, en compagnie de son frère Stéphane, ont choisi de reprendre la ferme de leurs parents. Je laisse Benoît nous rapporter les différents aspects de cette reprise et je vous retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet de cette série.
Bonjour, donc je suis Benoît Delmotte. À la base, j'étais infirmier et fils de paysan. Les parents souhaitaient céder la ferme, mais n'avaient pas dans l'idée que mon frère et moi reprenions la ferme. Donc on les a poussés, enfin, on leur a expliqué que nous, ça nous intéressait bien de reprendre l'exploitation agricole familiale. Et donc, on a repris l'exploitation au 15 décembre 2015. Et donc, depuis, on est double actif avec mon frère, et sur la ferme et à l'hôpital. Donc, voilà.
Donc, décembre 2015, ça veut dire que ça fait à peu près un an et demi que ça tourne. Mm-hmm. Donc, ton frère Stéphane et toi, Benoît, vous continuez à travailler par ailleurs, mm-hmm, et vous vous investissez sur la ferme. Alors, comment ça se passe? C'est facile
C'est pas forcément évident parce qu'il faut caler les deux plannings de travail avec les aléas de la ferme, parce que la ferme, tu peux pas décider du temps, tu peux pas décider. Autant à l'hôpital, je peux dire, je viens tel jour, et, enfin, tu peux prévoir ton planning à l'avance. Là, la ferme, tu sais jamais si demain il va vraiment pleuvoir, si... Enfin, voilà.
c'est clair, oui. Effectivement, j'imagine un petit peu parfois le casse-tête. Tu peux la présenter, la ferme? Qu'est-ce que c'est? C'est quel type de production? Quel type de débouché? Comment ça se passe?
Donc c'est une ferme qui est qui était en polyculture élevage du temps de mon grand-père, etc. Mais quand mon oncle a repris dans les années 90, il a arrêté complètement l'élevage. Il est passé sur un mode de polyculture classique, enfin de culture classique, céréales, betteraves, pois de conserve. Pas très varié, quoi, en fait. Et depuis, après, donc mon père, lui, avait repris la ferme de son frère en 94. Donc ça faisait deux entités différentes. Il y en a une pour laquelle, enfin, donc en 2012, sur l'exploitation de mon père, on a commencé à convertir en bio. Donc on a essayé en commençant par une parcelle, et puis tout doucement, tous les ans, on a passé en bio plusieurs parcelles, quoi. Donc là, on est à peu près à la moitié de la surface en bio, quoi.
Sur une surface totale de combien?
On est à 86-7 hectares pour deux, quoi.
Et les débouchés, donc?
Donc les débouchés, donc en bio, donc on fait de la betterave rouge, donc qui part chez Nora Bio, chez des cuiseurs. C'est la betterave rouge qu'on retrouve dans les supermarchés sous vide la plupart du temps, ou chez Biocoop aussi, parce qu'ils travaillent aussi avec Biocoop. Et puis après, donc les céréales, ça part chez Bioserre pour ce qui est bio, et après, bon, tout ce qui est en conventionnel, ça part encore dans le conventionnel pour donc on compte terminer la conversion pour 2021 à peu près, donc d'accord, être complètement en bio en 2021-22 maximum, quoi.
sur l'ensemble de
l'exploitation, ouais.
D'accord. Alors donc tu avec ton frère, donc deux personnes, hein, qui par ailleurs travaillent chacune de leur côté. Mm-hmm. L'organisation, c'est quoi? C'est chacun des tâches particulières, ou alors tout le monde s'occupe de tout et puis on pallie à tout?
C'est tout le monde s'occupe de tout. Alors Stéphane, lui, il a un fonctionnement plus simple, c'est qu'il a une garde de 24 heures par semaine. Comme il est à mi-temps, il est à mi-temps de 35 heures, et il arrive à faire 24 heures de garde d'affilée. Donc c'est pour lui, sa semaine, elle est plus simple, quoi, parce qu'il a une garde de... Et ses plannings, l'hôpital, lui, il les a 3 mois, donc ça lui permet de gérer pas mal de choses à l'avance et d'être plus présent aussi sur l'exploitation, ce qui facilite aussi les tâches, de la gestion des tâches sur la ferme, quoi.
C'est plus compliqué pour toi, en fait.
C'est plus compliqué pour moi parce que je suis qu'à 80% et les postes que je fais, les postes les plus longs que je peux faire, c'est 10 heures, c'est quand je suis nuit. Donc le fait d'être de nuit, il faut que je dorme un peu quand même la journée. Et après, ça me permet quand même d'aller dans les champs, mais bon, l'avantage d'être de nuit, c'est que je fais moins de postes sur 15 jours, je fais moins de postes, et puis ça me permet la semaine d'après de récupérer des jours, quoi, parce que je,
comme
je
suis à 4... la ferme, quoi.
Pardon ?
Et d'être disponible sur la ferme.
D'être disponible sur la ferme, ouais. Ouais. Donc j'essaie, en ce moment, en tout cas, je fais beaucoup de nuit et ça me permet de libérer plus de jours de repos sur la ferme. Après, il y a des périodes où il y a moins besoin de temps sur la ferme, donc là, je me mets en journée et puis.
Quand on t'écoute, on a l'air de. Enfin, on retient que c'est simple, mais en fait, ça doit être fatigant malgré tout.
Ouais, bah, c'est, il faut jongler, c'est pas toujours évident, mais bon, ça, voilà quoi. Après, la ferme, pour moi, c'est plus un passe-temps qu'une profession, quoi. Je le prends pas. C'est ce qu'on disait avec Stéphane, on a été élevé à la ferme, donc pour nous, c'est un passe-temps, quoi. C'est pas un métier, c'est. Ouais. C'est bon, même si voilà, c'est des contraintes, etc. Mais c'est plus un passe-temps qu'un métier.
Qu'est-ce qui fait justement que quand on est gamin puis jeune, bon, on finit ses études, on part dans une profession, hein, donc médicale toutes les deux, hein, tous les deux, hein, et que ensuite on revient à la ferme, c'est quoi, c'est.
Bah, en fait, au départ, pour moi personnellement, c'était un souhait de rester sur la ferme. Hein. Je voulais pas du tout faire d'études et je voulais rester sur la ferme. Les parents ont dit mais non, une ferme c'est pas viable, elle est toute petite, donc tu tireras pas de revenus, c'est pas la peine, machin. Donc voilà, ils m'ont dit bah tu vas faire tes études et puis après on verra. Mais en pensant bah il va faire ses études, il aura un métier et il nous embêtera plus avec ça. Sauf que bah on a tous les deux terminé nos études. Stéphane lui avait comme on a 10 ans d'écart, il avait déjà commencé à travailler depuis quelques années. Et puis, moi, j'avais terminé mes études, mon père approchait de la retraite. Et donc, on leur redit, on va les revoir en disant, mais non, mais là, vraiment, la ferme, on veut la reprendre. Et là, ils se sont dit, ah zut, donc bon. Donc là, de ce fait-là, ils ont rencontré les associations comme le CEDAPA, Avenir, etc. Et puis, ils se sont fait aiguiller de différentes manières pour dire de reprendre l'exploitation, enfin de transmettre l'exploitation correctement et puis voir que des petites fermes, on pouvait les valoriser autrement que ce que avait fait et puis en vivre quand même un minimum, quoi.
Alors le projet, ça reste que tous les deux, vous soyez à temps complet sur la ferme, au final.
C'est ça, ouais. Ouais.
Et dans ton esprit, je ne sais pas si c'est très clair, mais dans ton esprit, la perspective, c'est pour dans combien de temps, c'est peut-être pas du tout clair. Hein, je pose
si,
la question.
Si, bah, c'est au final, c'est facile. Hein. En gros, c'est quand on aura remboursé les gros prêts à la banque, donc pas avant. Après, donc la conversion en bio, déjà, quand on aura tout converti en bio en 2022, 23, 24, 25, parce que ça sera en 2022, ça sera en conversion, mais pas forcément en bio, et après, on sera en. Donc, quand on sera en bio, le revenu de la ferme sera pas tout à fait pareil, je pense qu'on pourra se libérer plus de temps de travail. À l'hôpital, je pense qu'on arrivera à se tirer un petit peu de salaire quand même sur la ferme et ça me permettra de se libérer plus de temps sur la ferme, quoi.
Les prêts dont tu parles, c'est portent sur quoi ?
Bah, c'est la reprise du matériel, les achats de nouveaux matériels, parce que forcément, comme on est passé en bio, on a dû un peu modifier le matériel, quoi. Le matériel qu'on avait, il n'était pas adapté à la production en bio, donc il a fallu modifier, et puis bon, il y a des reprises qu'on a dû. Enfin, notre oncle, on a dû faire une reprise quand même de terre, donc il a fallu le financer, quoi, parce que c'est.
Donc, j'essaie de suivre ton raisonnement. Hein. Les revenus actuels de la ferme, en gros, remboursent les prêts, et donc vous vivez sur votre deuxième.
C'est ça, ouais. Ouais.
Et donc, effectivement, quand les prêts seront remboursés, là, on estime. Enfin, toi et Stéphane, vous estimez que les revenus de la ferme. Contribueront à vous payer.
Ouais, bah puis après nous, il y a aussi le fait qu'on ait des maisons à rembourser pour l'instant, donc on sert aussi du salaire de l'hôpital pour rembourser les maisons, et puis on en a encore pour quelques années, mais Stéphane, dans moins de 10 ans, il aura fini de rembourser sa maison, et moi, dans maximum 15 ans, j'aurai remboursé ma maison, donc je serai plus aussi pris à la gorge.
Ah, peut-être une question, hein, changement d'activité complet pour tous les. Enfin, complet. Quand même un beau virage pour l'un et l'autre. Comment ça se passe au niveau de la famille ? Ça peut pas marcher s'il n'y a pas le soutien de la famille. Ça,
bah ouais, non, bah oui, d'accord.
Là, tout le monde était habitué à ton salaire d'infirmier, le salaire de Stéphane à l'hôpital. Donc il y a un changement complet.
Ouais, après, moi, ça se voit pas trop pour moi parce que je suis passé de 100% à 80%, donc la différence, elle est pas énorme. Et puis, enfin, donc ça se voit pas. C'est plus au niveau, enfin, financièrement, ça se voit pas trop. Moi, je pense que c'est plus au niveau du temps, quoi, parce que j'entends souvent que je suis pas beaucoup à la maison, que voilà. Mais après, ça fait partie des choses qui avaient été exposées avant de reprendre la ferme. Ça faisait partie des choses. Enfin, c'est des choses qu'on avait mis sur la table avant de reprendre la ferme, quoi.
Après. Il valait mieux, je pense.
Oui, sinon j'aurais mis valise à la porte.
Et... Et voilà. Autant éviter ce type de, de souci. Tu évoquais le CEDAPA à venir. C'est important un réseau comme ça pour quand on s'installe.
Ah bah je pense ouais parce que enfin pour nous, enfin pour les parents, ça leur a impulsé des choses auxquels ils pensaient même pas, et ça les a fait réfléchir sur beaucoup de choses, et ça leur a beaucoup facilité la vie dans la transmission de la ferme, quoi. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles ils pensaient pas et auxquelles le CEDAPA leur a fait penser ou à venir, enfin je veux dire.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9. Radio associative, libre et sans pub. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.